Couleur tropicale.
Oh yeah, baby.
Hey, couleur tropicale.
Oh yeah.
Dans le studio de Unique,
je me sens perdu sans toi, baby.
Original et
légal. Tu es parti. Maintenant, mon cœur, mon âme ont anéanti.
Dedication.
Venez vers moi, baby.
C'est couleur tropicale en direct de Montréal.
Venez vers moi.
Cette émission est une rediffusion.
Couleur tropicale, yeah, allez yo.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur tropicale.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même tu...
Je vous aime.
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi. Bonne arrivée la famille. Nous sommes à Montréal, mais c'est notre dernière escale montréalaise où nous vous proposons de revivre les grands moments de Nuit d'Afrique. On va recevoir des invités, évidemment, comme nous le faisons depuis déjà lundi. Vous allez pouvoir encore une fois comprendre l'importance de ce festival pour les musiques d'Africa et de ses diasporas. Beaucoup d'invités. Voici le premier. Il s'appelle Kenzo.
What's my name? I know you wanna know. Nobody moves like you, baby girl, it's true. Come into my room, I put my love on you. I jiggle when you jiggle, oh wait, I jiggle when you jiggle. Nobody moves like you, baby girl, it's true. Come into my room, I put my love on you. I jiggle when you jiggle, oh wait, I jiggle when you jiggle. What's my name? No need to whine, girl, I woulda killed with you without your mind. Your vibe is my vibration, I'm alright. I think about you when I go to bed at night. She was so sexy, no need to whine. Girl, I woulda killed with you without your mind. Your vibe is my vibration, I'm alright. I think about you when I go to bed at night. Say, what's my name? I know you wanna know.
Bonne arrivée dans la radio.
Merci beaucoup.
On vient de t'écouter sur la scène de Nuit d'Afrique. Yeah, salut. Ah, c'est super cool ton quartier. Tu as décidé de nous donner rendez-vous dans un endroit que tu connais bien. Alors dis-nous où nous sommes, d'où les gens nous disent bonjour en passant.
On est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et en fait, c'est une rue, j'habite juste à côté, mais moi je viens ici pour faire de la musique. Je fais de la musique et je ramasse les dollars des gens. Je montre mon talent à tout Montréal comme ça.
Alors, tu... Moi, j'adore la formule. Hein. Je prends les dollars des gens, je montre mon talent. Toi, tu as vraiment un truc parce que tu es un artiste, j'ai envie de dire zen. Tu parles de coolitude, c'est ce que tu veux offrir aux Montréalais, aux Canadiens. Tu parles également de musique rafraîchissante. Parle-nous de ta musique.
On me pose beaucoup de questions, mais moi, j'essaie juste de faire quelque chose de plus, le plus original possible. Et le moins monotone, quelque chose de frais, t'as dit ça, frais. Ouais. Quelque chose de nouveau, j'aime mélanger les styles. Et c'est pour ça que je fais quelque chose qui s'appelle le reggae décalé. C'est-à-dire, je joue du reggae roots parce que j'aime ça. Mais j'aime aussi danser, j'aime aussi mélanger avec un truc. Donc j'appelle ça le reggae décalé. Good music. On n'est pas obligé de mettre un nom dessus, mais bonne musique, c'est ça.
Mais t'as raison, parce que la musique, c'est avant tout quelque chose qui doit toucher les cœurs, les esprits, les corps, et pas la peine d'avoir de grandes définitions pour savoir si on aime ou si on n'aime pas.
C'est ça, c'est universel. Que tu chantes en français, anglais, bambara ou moré, les gens, ils kiffent.
Tu as cité le moré, bah, tout simplement parce que tu es d'origine burkinabé. Et puis-je me permettre de dire que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui, même si on n'est jamais l'enfant de n'importe qui, mais d'un point de vue artistique, tu es quand même l'un des enfants de Monsieur Idrissa Ouédraogo, l'un de nos grands réalisateurs.
Oui, effectivement, le maestro, c'est mon inspiration.
C'est ton inspiration lorsque tu fais de la musique, mais est-ce que lorsque tu fais de la musique, est-ce que tu penses aussi à l'image? Parce que papa est un homme d'image.
Pas vraiment, parce que papa lui-même, il ne pensait pas à l'image. Parce que moi, je connais plus l'homme que le réalisateur, donc les aspects techniques, tout ça, avec lui, je ne connais pas trop. Mais lui, c'est quelqu'un de cool. Si tu demandes au Burkina, c'est quelqu'un cool qui cause avec tout le monde dans la rue. Il s'assoit par terre dans la rue, il mange les arachides. Donc, lui, c'est ça que j'ai pris de lui, c'est le côté cool. C'est ça, le côté je m'en fous.
C'est vrai que tu as un petit côté comme ça. Eh ben, écoute, nous, en tout cas, on s'en fout pas. On voulait vraiment être avec toi. On se promène un peu? On y va? Allez, on descend. Alors, on fait très attention à voilà, le petit bonhomme. Parce que si on traverse alors que le petit bonhomme n'est pas blanc, s'il n'y a pas le marcheur, on peut se retrouver avec de fortes amendes, c'est ça?
Ici, ouais, ici la police. Les gens sont très, comme on dit, civiques. Ouais, ils rigolent pas avec ça. Sauter le métro, les feux rouges. Ici, ça se fait pas trop de crier.
À toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur le continent africain et en France, hein, voilà, ici ça ne se passe pas comme ça, il y a une vraie discipline et chacun respecte les règles. Je voudrais que tu nous parles de toi qui vis aujourd'hui à Montréal. On a bien compris, hein, c'est ton endroit, c'est ton lieu, mais tu as vécu aussi en France, je crois.
J'ai vécu en France parce qu'à la base, moi je joue au football, donc j'ai vécu en France, je joue au Stade Quimperois, j'ai joué à Brest aussi. Et après, je suis retourné au Burkina parce que ça n'a pas marché là-bas. Je jouais au foot et la musique, c'était plus un loisir avant de revenir ici en tant qu'étudiant athlète.
Tu aurais vraiment voulu faire une carrière de footballeur ou est-ce que tu l'as fait par passion parce que tu étais jeune et tu t'es dit, tiens, allez, pourquoi pas, on y va?
Franchement, je ne me voyais pas faire autre chose que le... Si tu m'aurais dit que je ne ferais pas du football, je t'aurais insulté là, quand j'étais plus jeune.
Ce qui est génial avec toi, Tu es sûr de toi, sûr de ce que tu offres. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, tu es sûr de toi, du chemin que tu empruntes. Tu as toujours été comme ça, toujours été déterminé et sûr de toi.
C'est les gens qui me l'ont rendu, en fait. Par exemple, quand je joue dans la rue, il y a des foules, tout ça. Donc, au début, j'étais pas sûr de moi, mais ça m'a donné confiance en moi. Je me dis que les gens sont pas stupides. Si les gens me montrent tellement d'amour, c'est qu'il y a quelque chose que je peux donner en retour.
Je voudrais maintenant, on est là juste devant un banc, une table dans la rue Sainte-Catherine, on va peut-être s'asseoir 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ta guitare ou pas? On fait quelque chose? Tu nous fais un petit son? Juste histoire de, tu vois, quelque chose d'un peu sympa, de rafraîchissant,
l'accorder vite.
De cool. Sauf que là, on va pas prendre de dollars.
Non, pas de dollars. De toute façon, d'habitude, j'ai un micro, tout ça, pour pas abîmer la voix.
Ouais.
Je branche un micro. Là, j'étais pas vraiment sorti pour ça. Voilà.
Hey. On est calé avec le monsieur Claudie Ciaro. On est calé dans la rue Sainte-Catherine. On est calé le Apple Store. On est venu parler du boy Kenzo. Yeah. Allez manger le plantain, manger le plantain, manger le plantain. Yeah. Allez parler à Claudie, parler à Claudie, parler à Claudie.
Yes, c'est ça.
C'est cool, et vraiment merci, en plus impro, tu vois, tu aurais pu nous offrir une de tes chansons et tu t'as fait un mélange, voilà, la vraie improvisation. Est-ce que la rue est quelque chose d'important dans ton histoire artistique et que t'as apporté la rue dans la maîtrise de ton art?
J'ai commencé dans la rue, je jouais même pas à la guitare. J'ai acheté une guitare et je devais aller chez mon cousin, je dormais chez lui, je venais d'arriver au Canada, mais... J'avais perdu les clés, donc j'étais coincé dehors avec la guitare. Donc j'ai commencé juste comme ça, j'étais assis sur un banc à jouer un peu et il y a une dame qui m'a donné $5 alors que je savais même pas jouer, je te jure. Donc ça, ça m'a inspiré. Le lendemain, je me suis dit, si j'ai réussi à avoir $30 comme ça, juste en 30 minutes en rigolant, bah, je vais revenir demain. Après, je suis revenu le lendemain et j'ai pris goût à ça. Et ça m'a forcé à pas faire n'importe quoi, à bien jouer. Parce que quand les gens te regardent, tu es obligé de bien jouer. Donc maintenant, si tu me vois sur scène, j'ai pas honte du tout. Parce que ça, c'est à cause de la rue. Ça m'a donné l'habitude. Sinon, à la base, je suis timide. Mais ça m'a fait comprendre le côté entertainer. Si tu entertaines pas les gens, bah, ils vont pas te calculer. C'est ce que tu donnes aux gens, la musique. Et si tu arrives à leur faire ressentir quelque chose, peu importe ton talent, c'est pas que tu viens, que ouais, t'as une belle voix, les gens s'en foutent. Les gens, ils veulent ressentir quelque chose.
De l'émotion, de la vérité, de la sincérité.
De la joie, peu importe. Quelque chose de fresh, comme je dis. Plutôt que de venir démontrer ton talent. Tu vois ce que je veux dire?
Parle-nous de toi, de ta vie d'artiste ici à Montréal et de tes ambitions qui, j'en suis persuadé, sont probablement, certainement internationales.
Mes ambitions sont internationales, ouais. Bon, ma vie, mon quotidien, c'est entre les spectacles et la rue. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, comment tu fais des grandes scènes en même temps tu joues dans la rue, c'est pas cohérent et tout, ça te rabaisse, mais je le fais parce que je le sens. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc c'est ça mon quotidien, c'est jouer dans la rue. Et en même temps, j'essaie de sortir des vidéos. Là, j'ai eu un petit partenariat avec Mr. Easy qui m'a aidé à faire mon premier clip, Makemba. Et j'essaie de faire le plus de spectacles possible. Et aussi, j'essaie d'être connu dans mon pays parce que je pense qu'on ne me connaît pas assez dans mon pays, le Burkina, pour l'instant.
Bah, tu vois, tu es dans Couleur Tropicale sur RFI. Au Burkina, on nous écoute évidemment énormément. Et je suis persuadé que celles et ceux qui nous écoutent vont se dire « Mais attends, c'est un artiste incroyable. » C'est vrai qu'il y a à la fois l'humilité chez toi en disant bah, « Moi non, je peux jouer dans la rue et je peux jouer sur des grandes scènes. » Parce que finalement, tu es un passionné, mais jusqu'au bout, quoi.
Je pense que un vrai artiste ne doit pas faire semblant. Et beaucoup font semblant. Beaucoup pensent que c'est comme de la comédie, un rôle, mais ce n'est pas un rôle. Tu es qui tu es. Peut-être je serai le premier artiste connu qui joue dans la rue en même temps.
Où en es-tu, discographiquement parlant?
Bah, pour l'instant, j'ai juste sorti mon premier single avec Monsieur Gohou, Makemba. J'ai sorti ça il y a une semaine après que mon père soit décédé, en février. Donc c'est ça. Et j'ai eu des très bons retours parce que c'était ma première vidéo sur YouTube. Et sinon, j'avais fait quelques trucs quand j'étais au Burkina, mais c'était plus pour m'amuser, c'était du rap et tout. Après la saison des festivals, je vais sortir mon prochain clip, c'est ça.
Écoute, on est très heureux de t'avoir rencontré, un artiste simple et talentueux à la fois. On va te retrouver sur la scène de Nuit d'Afrique. Un petit mot peut-être à l'endroit de Lamine Touré.
Je tiens vraiment à le remercier parce que ce monsieur et sa structure, ils m'ont donné beaucoup d'opportunités. Là, j'étais finaliste de leur concours qui s'appelle le Silidor. Et j'ai eu beaucoup de fans grâce à ça, de gens qui me connaissent. Donc je salue vraiment, merci tonton.
Ouais, et puis Suzanne, toute l'équipe quoi.
Merci à Suzanne, Valérie, Moïse, Colin, tout le monde. Désolé, Pauline, tout le monde. J'ai pas oublié les noms, mais il y en a trop.
Merci en tout cas Kenzo d'avoir été avec nous. L'enfant Kenzo, le talent Kenzo, on va te retrouver tout de suite donc sur scène. Merci Kenzo.
Merci Monsieur Claudie.
Si vous aimez des gens, faites attention. La vie c'est pas éternel, hein. Forever. Forever ever. Poup sababo. Pukum, rukum yesi kita, puru, pup sababo. Pukum, rukum yesi kita, puru. Mamita dasas go latana satenga Ti ne ba fanget mam la mamwa kanga. Mamita white girl la mamta Canada. Ti ne ba fanget mam la mamwa crazy yo. Donc j'ai dit mama katwen im foyele. Papa, je peux jamais vous oublier. Mama, Katwim, Oyele, oh, Papa, je peux jamais vous oublier. Ok. Je suis venu à Montréal. L'espoir plein les valises, une guitare au dos. Je suis venu à Babylone représenter ma famille, de la paix dans le cœur, sans jamais si je les reverrai. Donc maman, Katwin, il faut y aller. Papa, je peux jamais vous oublier, oh. Je peux jamais vous oublier. César.
Allez, on va retrouver maintenant notre deuxième invité. C'est un groupe. On va les retrouver sur la scène de Nuit d'Afrique et on les rejoindra dans leur studio d'enregistrement. Voici Unique.
Tout est possible, j'ai plaisir. Côté plaisir, aïe, côté qui est bon ambi, côté qui est belle qui est dit,
c'est Haïti, monument historique, c'est Haïti.
Côté offensé, côté plaisir.
Merci de nous recevoir chez vous.
Pas de problème, pas de problème.
Je fais les présentations. Sophony, Jerry et Rudy, trois des membres de Unique. Alors, on vient de vous entendre sur la grande scène, la scène TD, hein, comme on dit, du festival Nuit d'Afrique. Et là, nous sommes dans votre studio de répétition, d'enregistrement. Sophony, où sommes-nous ?
Oui, ici, on est au studio en Jam Session. Donc, ça, c'est notre deuxième maison. Ouais. C'est notre studio quand on fait des répétitions, on pratique nos chansons, puis on fait des montages aussi. Donc bienvenue chez nous.
Bon, on va en savoir un petit peu plus sur ce lieu où se créent les musiques de Unique. Alors Unique, ce sont des lettres pour traduire United Nations in Compa.
C'est ça, Nations Unies dans le Compa.
Ouais, tout le monde a compris que j'étais nul en anglais. Alors moi je suis très intrigué. Justement, alors à la fois par la pochette, on va en parler dans un instant, mais surtout par cette photo avec ce bras levé, ce poing levé. Donc il y a là un message qui pourrait être qualifié d'un peu politique ou social, mais le bras est coupé à plusieurs endroits, à quatre endroits. Pourquoi ? C'est pour symboliser les nations, c'est pour rappeler les divisions et l'unité que vous souhaitez ?
En fait, c'est pour dire, en fait, l'album s'appelle Dédication, ouais. Dedication, qui signifie motivation, persévérance. C'est un groupe, en fait, qui a traversé pas mal de péripéties, si on peut dire. Alors, on est encore là aujourd'hui. On a travaillé vraiment fort pour réaliser cet album et beaucoup de sacrifices. Et en fait, la main levée, c'est pour dire que la main a été coupée plusieurs fois, mais n'empêche pas que le point reste fermé.
Le point reste levé.
Ouais, le point reste levé. Quand on est encore là, puis on continue, on lâche pas.
L'album a un an déjà. Le groupe, lui, a 8 ans, c'est ça? Parce que le groupe est né en 2010. Et 2010, c'est pas une année comme les autres pour Haïti et pour les diasporas.
C'est en plein ça. Rudy. Ouais, c'est en plein ça. On a eu beaucoup de problèmes là-bas. Mais on est jeune et on n'a pas le choix de garder quand même notre morale très très haut pour pouvoir travailler et puis pour représenter notre pays.
J'évoquais le tremblement, tremblement de terre.
Ouais, c'est ça. On avait une famille là-bas et tout ça. Et c'était vraiment le moment. Nous, on a pris la musique pour pouvoir nous aider à traverser ces problèmes-là.
Ces moments difficiles.
Ces moments difficiles, ouais.
Et Dieu sait qu'Haïti connaît des moments difficiles, ouais. Mais Haïti toujours do boots.
Quoi qu'il arrive, ouais.
Unique ou unique, comment voulez-vous qu'on dise? Nous les francophones, on va dire unique.
Unique, ouais.
Comment est né ce groupe-là? Parce que c'est une histoire de famille, de frères et de cousins. Qui veut raconter l'histoire? Sophonie.
Je vais vous raconter. Parce que moi, on a commencé à l'école, donc au secondaire. Donc.
Ici à Montréal?
Non, moi, on a grandi aux États-Unis.
Ah, aux États-Unis,
donc,
d'accord.
En Haïti, on est parti donc, à un très jeune âge.
Oui.
Donc, on a fait le secondaire aux États-Unis. Là, moi et mes frères, c'est Sophonie, puis Josh, puis Jonathan. Donc, on a commencé à prendre des cours de piano. Puis, c'est moi qui a commencé avant.
Oui.
Puis,
c'est toi l'aîné?
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Donc, en rentrant chez moi, on commençait à pratiquer. Puis, mon grand frère dit, oh, il est en train de compter tous les jours quand je commençais à pratiquer. Puis, ça a grandi. Et puis, il est devenu intéressé à apprendre le piano aussi. Donc, moi, je lui ai dit, oh, c'est facile à apprendre. C'est juste à placer les accords et puis écouter et développer ton oreille.
Non, mais
et
comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent? Non, mais c'est facile, il te suffit de placer les accords.
C'est ça,
c'est bon.
Placer les accords. Puis,
attends,
c'est ça. Puis mon petit frère aussi, il est devenu intéressé. Mais j'ai dit, bon, si on veut bâtir un groupe, on ne peut pas tous jouer le même instrument que le piano. Il faut quand même avoir un guitare de basse, puis la batterie, puis il faut avoir quelqu'un qui chante aussi.
Ouais.
Puis j'ai dit, bon, si on est sérieux, il faut quand même, on va commencer à diviser les tâches. Bon, on a appelé mon cousin qui est Woody.
Ouais.
Il dit, bon, ça apprend un chanteur aussi. Donc, il faut commencer à apprendre à chanter. Puis là, il est devenu intéressé aussi.
Ouais.
Donc, il est parti à l'école à prendre des cours. Puis depuis ce temps-là, on a appris ça tout sérieux. Puis en 2010, on dit, bon, comme on sait maintenant comment passer des accords, puis il sait comment chanter, puis chanter sur le bon clé, puis rester en note. Donc on dit, bon, on va bâtir un groupe, puis on va représenter notre culture. Parce que le compas, c'est un style qui est dans nous, parce qu'on aime ça. Ça, c'est notre passion. Puis on dit, on va faire quelque chose de sérieux, de bon. Puis on va bâtir. C'est comme ça, unique à commencer.
Ouais, ouais. Tu étais à deux doigts de parler créole. C'est comme ça.
Exact.
C'est comme ça. Non, mais et c'est vrai que, on le dit souvent, on le répète, c'est la plus populaire des musiques haïtiennes. Alors certains plus traditionnalistes diront non, mais le rara aussi, il ne faut pas l'oublier.
Ouais, ouais.
Mais en tout cas, le compas, merci Nomour Jean-Baptiste, évidemment. Merci tous ceux qui se sont adonnés au compas direct. Oui. Et aujourd'hui, avec un compas nouvelle génération, comment est-ce que vous définissez, vous, votre compas?
Notre Rudy. Compas, c'est sûr, c'est nouvelle génération, parce qu'on veut quand même représenter la nouvelle génération et avec notre musique, la façon dont on joue.
Sur scène, combien êtes-vous? C'est 8 membres, hein? Vous êtes 8, hein?
On a 9.
9, d'accord. Ouais. Au départ, vous étiez 8, non? Non, vous êtes toujours été 9?
Non, on a été toujours 9.
Ah bon, d'accord. Oui,
c'est ça, ouais.
Ouais. Non, non. Non, mais j'ai vu ça. Non, mais peut-être que j'ai finalement mal lu. Alors, Rudy, on sait quel est ton poste. Sophonie également, oui. Hein, puisque toi, tu es au keyboard.
C'est ça.
Et toi, Jerry?
Chanteur.
Ouais. Chanteur également, ouais. D'accord. Au sein du groupe, il y a donc tous les Luxins. Donc
oui.
Ça c'est ta famille, les autres sont donc tous les cousins.
Ouais.
C'est toi, Sophonie, qui est le producteur exécutif, si je puis dire, de l'album.
Oui.
Raconte-nous ton rôle.
Bon, moi j'ai fait tous les arrangements, puis j'ai participé aussi avec les arrangements des textes. puis on va dire les mixages, puis il faut faire le mastering de tout l'album au complet. Donc tout l'instrumental, c'est moi qui a fait tout de base. Vous pouvez le voir sur l'album aussi.
Oui, oui, oui. Non, non,
on a 12 ans chansons, donc tout a été bâti par nous.
Et il a chanté une chanson ou une,
deux chansons aussi, ouais, qui est chantée par moi sur l'album.
Ah bon? Ah, aucun chanté aussi. C'est bien. Vous avez attendu 7 ans quand même, les gars, pour faire un album. Est-ce que cela veut dire que vous ne vous sentiez pas prêt à sortir un album? Ou est-ce qu'à Montréal, quand même, c'est difficile pour un groupe haïtien de compas de produire un album?
Ouais, c'est très, dire. Très, très difficile, c'est sûr. Nous aussi, on veut, quand on fait quelque chose de valeur, on veut quand même prendre du temps pour mieux préparer. Et aussi, c'est très, très difficile parce que, économiquement parlant, ça demande beaucoup d'argent pour produire un album. On voulait quand même prendre notre temps pour avoir assez d'argent pour pouvoir produire exactement ce qu'on veut sortir quand même. Alors, c'est pour cette raison qu'on a pris du temps quand même pour sortir notre premier album.
Sans jeu de mots, hein, est-ce que cet album, pour vous, est-il vraiment unique? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez réalisé, Jerry?
Bien sûr, je crois que oui, parce que, écoute, c'est un album que nous avons mis notre, je dirais, 120%, 150% même dans cet album-là. Mm-hmm. Ça nous a pris du temps pour faire cet album-là. On a passé beaucoup d'heures de temps au studio. On a beaucoup travaillé aussi ici au studio en live pour réaliser cet album-là. C'est beaucoup de choses, en fait, réaliser un album. Parfois, le public pense que quand on fait 12 musiques, là, on fait 12 musiques comme ça. Non, ça demande du temps, ça prend de l'arrangement, ça prend beaucoup de concentration. Il faut que l'artiste soit présent.
Unique, c'est l'union des nations du compas. Quelles sont ces nations du compas pour vous?
Moi, je pourrais dire les nations du compas, là, que nous, on essaie d'emmener tout le monde, toutes les nations. On va dire, c'est notre devise. D'unir tout le monde dans notre style de musique.
Ce sont les groupes ou est-ce que ce sont des terres de compas? Bon, qu'est-ce qui définit pour vous l'idée de nation?
On va dire des terres de compas. Parce D'accord. que normalement, c'est tout le monde. Parce que le message qu'on fait passer dans toutes nos chansons, c'est des messages positifs. Donc, que tout le monde pourrait bénéficier de ça. Donc, on n'est pas quand même en train de viser juste une seule groupe. On veut unir tout le monde ensemble. Donc, c'est comme au festival La Nuit d'Afrique. C'est toutes les nations sont réunies pour écouter de la bonne musique puis pour s'amuser ensemble. Donc, c'est ça le devise.
Que représente ce festival pour vous, Nuit d'Afrique, ce festival du grand Lamine Touré?
Oh, ça, c'est énorme. Parce que c'est 32e édition. Donc, moi, je pourrais dire, j'étais même pas encore né quand ça a commencé. Donc, ça veut dire. Ça veut dire, on est très fiers. Puis, c'est un privilège pour nous de faire partie des groupes qui vont être sur cette scène.
Oui.
Et puis, on est très excités à participer dans cette festival. Ah,
ouais. Y a-t-il d'autres rendez-vous comme ça, annuels, d'autres concerts, pluriels, donc avec d'autres groupes auxquels vous avez déjà participé? Où vous allez participer?
Mais oui, on a le festival Créole Musique qu'on a déjà participé à 3 reprises, je pense. On a le festival à Toronto, FKZO, qu'on a participé à plusieurs reprises. Et on a participé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de festivités, là, comme ça. Ouais.
Être groupe de compas à Montréal, haïtien de Montréal, au Canada, c'est une chose. Mais on a toujours envie quand même que le pays reconnaisse ce que l'on fait, même si paye la pitié, comme certains disent, mais c'est là où est le cœur même du compas. Où en êtes-vous dans votre rapport avec Haïti, votre musique et les Haïtiens du pays? Est-ce que vous allez en Haïti? Est-ce qu'on connaît votre musique déjà?
Oui, donc c'est sûr, bien sûr, parce que nous, on a fait un dernier tournée, c'était pour faire de la promotion pour l'album.
Oui.
Donc Woody, puis mon grand frère était là-bas pour faire des présentations, des entrevues dans toutes les radios. Puis ils ont même participé à un festival, juste pour promouvoir l'album.
Oui,
comme
oui,
ça,
oui.
Tout le monde va écouter les chansons. Puis on a plusieurs stations de radio, télévision, qui est en train de rouler nos vidéos, wow. Puis toutes les musiques à tous les jours.
Wow, wow.
Donc c'est le public, il nous reçoit très bien.
Bon, vous savez qu'on nous écoute en Haïti, hein. RFI s'est écouté en Haïti.
Actuellement,
donc ouais. Si vous voulez passer un message, c'est maintenant.
On va dire, lâche pas, parce que nous, on va venir bientôt. Ouais. Juste pour faire les tournées. Donc,
en créole.
Dans tout le pays. Donc, Navin sous nous. Puis, on est unique, nous toujours prêts. Nous toujours bien préparés pour nous satisfaire public, nous. Donc, retenons-nous, Woody Jerry, un pile belle vocale, un pile bon piano pour aller tomber.
Eh ben merci beaucoup. On va justement rester dans ce tempo-là pour vous entendre. Deuxième extrait de votre concert sur la scène TD ici à Montréal pour le festival Nuit d'Afrique. J'étais très content de vous rencontrer, les gars. Ouais, vraiment, merci. Vraiment. Et puis aussi. Plein de bonnes choses.
Merci. Merci. Merci.
Compa. Quittez le marché.
Bon bagage.
Avec Unique sur la scène de Nuit d'Afrique. Grand moment également dans le studio. On a vraiment beaucoup aimé ce groupe et on les entendra souvent dans Couleurs Tropicales. Allez, terminons notre périple, notre belle aventure ici à Montréal dans le cadre de ce festival consacré aux musiques d'Afrique et des diasporas avec un artiste qui parcourt le monde cet été.
Tout a commencé l'autre jour en sortant de ma douche. Champ de vision qui se bouche, des accents de bonne touche. Comme une odeur de sapin, funeste faisceau d'indices. Ce n'est pas encore la fin, mais j'en sens les prémices. Envie de chanter des sonnets, des cantiques habités. Mais la magie est à quelle génialité. Pas de rire, puis pour ma peine, je décède chaque fois qu'une feuille vierge étaye ce sinistre constat. Persona non grata. Ma plume ne va plus d'un mois. Persona non grata. Page blanche du trépas. Persona non grata. Pour qui donc ça ne se glace. Persona non grata. Me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Me reprendre je dois. Peut-être je me suis trompé de modoc et mettons. J'ai beau retaper le code mais personne ne répond. J'en ai parlé en haut lieu, haussement d'épaule au mieux. Je suis comme un cigasse sans gâte mais ça les classiques sans battre. Sera ne vois-tu rien venir, ni muse ni supplément. Rien pour sauver mon empire, me refaire tranquillement. Mettre un terme à mon calvaire, faire le lit du salut. Gommer d'un trait ces faux airs de poète disparu. Persona non grata. Ma plume ne va plus d'un mois. Persona non grata. Pas
page blanche du trépas. Persona non grata. Pour qui donc sonne sous glace?
Il y a un moment d'émotion au sein de l'équipe parce que nous allons bien recevoir notre dernier invité. Nous allons quitter Montréal, cette ville de communion, de communauté. Et pour dire au revoir à Montréal, nous avons avec nous Tété. Bonne arrivée.
Bonjour.
Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi.
On se retrouve ici dans cette ville. Je parlais de communion, je parlais de rencontres parce que c'est l'esprit même du festival. C'est ce qu'a souhaité Lamine Touré. Que représentent les Nuits d'Afrique pour toi?
Les Nuits d'Afrique pour moi c'est le brassage, c'est un peu une manière de célébrer ces cultures, parce que l'Afrique, ce continent immense, compte une infinité de sous-cultures finalement, qui je trouve sont très bien représentées au festival Nuits d'Afrique.
Il y a une idée aussi partagée par Lamine Touré, c'est ce qu'il souhaite, et c'est pour cela qu'il a d'ailleurs baptisé son lieu le bal à tout, le bal à tous, bal pour tous. Donc,
d'accord.
Et vrai, c'est ça la signification de bal à tout. Et lui, il veut justement que ces cultures-là elles soient partagées et dire que demain, peut-être, un Européen d'origine, donc ici au Canada, puisse s'emparer de ces musiques-là et faire de ces musiques-là, de ces sonorités-là, bah, ses musiques, son expression. Est-ce que ça aussi, ça te parle?
Ça me parle, je trouve ça éminemment visionnaire. Il lui a fallu une sacrée vision, cet homme-là, pour imaginer ça il y a 30 ans.
Est-ce que la culture, justement, et la musique en particulier, penses-tu que cela a ajouté à la connaissance de l'un, de l'autre, du regard de l'un sur l'autre? Et est-ce qu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas une accélération de cela, grâce à des gens comme Lamine Touré et d'autres, qui veulent faire en sorte que les mondes se rencontrent?
Bien sûr. La musique, pour moi, c'est ce que j'appelle un patrimoine immatériel. C'est le soft power. Il y a des pays comme la Suède, qui, au travers d'un producteur qui s'appelle Max Martin, écrivent pour les plus grands chanteurs américains, mais depuis 20 ans. Et je crois que la musique, c'est une arme phénoménale, et surtout, c'est ce que j'appelle un cheval de Troie. Qui connaîtrait la Jamaïque s'il n'y avait pas eu Bob Marley? Parce qu'il y a la Barbade, il y a Trinidad, il y a plein d'îles en fait. Mais il a fallu un type, une proposition artistique pour que ce soit sur la carte. L'Irlande, pareil. L'Irlande, ils ont toujours eu des mélodies de fou.
Ouais.
Et tout ce qu'on appelle la pop contemporaine, qu'on prend comme telle parce qu'on n'a rien connu d'autre, ce sont souvent des mélodies irlandaises. Et tu vois ce que je veux dire? Et ça, je crois que c'est pour ça que c'est un cheval de Troie. C'est pour ça que c'est bien de le dire. Et pas, il faut pas trop le dire non plus parce que les gens vont commencer à se méfier. Mais je trouve que tu vois, c'est là où c'est un cheval de Troie, c'est qu'avec une jolie mélodie, tu fais passer tellement de choses. Et c'est une fois que la chanson t'a happé le cœur, que t'as envie de savoir, ah bah tiens, c'est marrant, le mec qui vient de ce pays, je savais pas que ça existait, mais il parle quoi comme langue? Et qu'est-ce qu'il mange? Oh tiens, et on n'irait pas? Et tu vois, c'est sur 3 minutes, un truc qui t'amène à faire ce chemin dans ta tête, à une époque où on construit plus de murs que de ponts, c'est fort, c'est très très fort, je trouve.
Lorsque tu travailles tes chansons, au-delà de l'émotion première, est-ce que tu réfléchis aussi à ça? Est-ce que tu te dis, ma chanson, elle doit toucher des francophones, elle doit toucher un public immédiat, et elle doit pouvoir toucher tout le monde? Ou est-ce qu'on ne va jamais jusque-là lorsqu'on écrit?
Il y a des gens qui, je crois, le font, mais moi, j'ai jamais su le faire. La seule chose sur laquelle je peux avoir pris, c'est d'essayer d'être le plus sincère possible. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on prépare une chanson qui doit aller parler à plusieurs territoires. En revanche, je sais que si t'es pas sincère, c'est des chansons que même toi tu joues pas parce que tu... Il y a un truc qui va pas, quoi.
Régulièrement, lorsque nous recevons de jeunes artistes dans Couleur Tropicale, c'est ce que nous leur disons. En leur disant, il ne faut pas que tu parles de ta musique comme étant un produit, parce que c'est une œuvre. Laisse les marchands avoir ce type de terminologie-là. Nous leur disons, ce qui est important, c'est que tu sois effectivement sincère avec ce que tu fais, avec ce que tu donnes. Et je leur conseille de regarder la dernière interview d'Al Jarreau, lorsqu'il parle de sa musique. La raison, les raisons qui l'ont poussé à faire de la musique. Pourquoi est-ce qu'il a fait de la musique? Et ça remet toutes les pendules à l'heure, et ça permet peut-être à certains de se dire, suis-je fait pour ça ou pas?
Mais c'est clair. Ce que je trouve hyper intéressant avec la musique, c'est qu'en fait, je vais essayer de faire concis. On a tous parlé de l'ubérisation de la musique, entre guillemets. Donc c'est nous qui l'avons vécu bien avant beaucoup de corps de métier. Mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi que la musique, ça a été une bulle qui a duré 50-60 ans?
Oui.
Parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les gens qui jouaient de la musique étaient des gens dont c'était jamais le métier. C'était des manouvriers. C'était des mecs qui travaillaient au champ, tous les corps de métier. Et la musique n'était jouée que pendant les grandes occasions de la vie. Les mariages, les enterrements, les récoltes, des choses comme ça. Et c'est après, petit à petit, que s'est créé ce truc. de vivre de sa musique, mais c'est quelque chose qui est très récent.
Ouais. L'industrie, oui, l'industrie.
C'est l'industrialisation de la musique. Et c'est pour ça que je trouve qu'au milieu de tout ça, c'est hyper important de se rappeler que la musique, elle est jamais aussi belle que quand il n'y a pas d'enjeu. Alors pour autant, bah oui.
Parce qu'elle est sincère, comme tu le disais.
Parce qu'elle est sincère, voilà. Donc après, bah, c'est un débat. Tu vois, on est en plein sur des débats de société depuis tout à l'heure. Ouais. C'est un débat crucial en ce moment à l'Europe, la rémunération des créateurs. Donc oui, il faut que les créateurs soient rémunérés, mais pour autant, je ne crois pas que ça puisse être le premier mobile.
Toi qui es artiste français, francophone, est-ce que ce pays, le Canada, est-ce que Montréal te semble être une terre, la perception comme cela, une terre vraiment de musique, une terre où l'on peut s'épanouir, une terre où tu aurais pu vivre, où tu pourrais peut-être vivre de ta musique et ta musique ?
Montréal, pour moi, c'est tout ça à la fois. C'est vraiment une ville où il y a une bienveillance rare. C'est une ville où j'ai voulu vivre un moment, où j'ai voulu m'installer. C'est une ville où je suis beaucoup venu. C'est une ville où j'ai écrit la... Enfin, c'est une ville qui m'a inspiré La Faveur de l'automne. Et c'est une ville où j'ai le sentiment aussi qu'il y a une fin de culture, une fin de l'autre. Après, je pense que le petit biais de perception qu'on peut avoir des fois, c'est que quand on voit les Montréalais en été, ils ont 3-4 mois d'été dans l'année. Donc je crois qu'ils sont 5, 6, 10 fois plus ouverts que le reste de l'année. Tu vois, là où ouais. En France, bah, quand tu as 8 mois de pluie, tu fais un peu la tête pendant 8 mois. Mais vu qu'on vient moins loin, on s'ouvre l'été, mais pas, tu vois ce que je veux dire, pas autant, vu qu'on n'a pas moins 30, moins 40. Moins.
Ouais.
Je me suis toujours dit que Montréal, c'est une ville qui t'acceptait telle que tu es pour peu que tu l'assumes et que tu le jettes pas au visage des gens. Tu vois, c'est une ville qui te nourrit, je trouve, qui te donne de l'énergie.
On t'a donné rendez-vous ici, dans le parc Toussaint L'Ouverture. Tout un symbole, la force de l'histoire, l'héroïsme, héros universel, tout ça l'ouverture, puisque son combat est le combat pour la dignité humaine.
Peut-être rappeler à nos amis...
Qui est tout ça l'ouverture, on en parle tellement souvent, ceux qui nous écoutent en Haïti évidemment le savent, c'est vraiment celui qui à la fois a combattu les Français, toutes les expéditions envoyées par Napoléon Bonaparte, qui disait « je ne laisserai pas des épaulettes de général sur les épaules d'un nègre » et qui souhaitait donc que l'esclavage soit rétabli et reprendre Saint-Domingue, donc sur l'île de Saint-Domingue, qui s'appelle aussi Hispaniola et qui aujourd'hui est Haïti pour une partie. Mmh. Et c'est vrai que Toussaint L'Ouverture a été ce général extraordinaire avec les siens, avec Dessalines, avec Christophe, qui ont combattu les trois expéditions, qui ont voulu reprendre Saint-Domingue. Mais il avait combattu les Anglais, il a combattu les Espagnols. Comme il était également fin tacticien, stratège, mais également en termes de politique, de géopolitique, un coup il s'alliait avec les uns, un coup avec les autres. Finalement, voilà, mais il a quand même été trahi par les siens, mais c'était le prix à payer pour que Haïti soit libre, c'est-à-dire d'accepter que l'on... de livrer tout ça l'ouverture très clairement et de verser aussi plusieurs millions de francs or à l'époque à la France exactement pour que voilà enfin bref
mais l'histoire on retiendra aussi que c'était le premier la première île qui avait accès à sa souveraineté
exactement première république née d'esclaves
voilà il a inspiré tant et tant d'hommes
mais oui 1er janvier 1804, proclamation de la République haïtienne. Donc on a voulu vraiment, parce qu'il y a un vrai symbole, on sait que ce sont des choses aussi qui te touchent. Quelle est ton actualité discographique? Où en es-tu? Parce que le dernier album en date, c'est 2016, si ma mémoire est bonne. Et on se dit, que fait Tété? Est-il uniquement en tournée? Est-ce qu'il affectionne plus particulièrement la scène en ce moment? Et il oublie le studio pour qu'on écoute de nouvelles chansons? Où en es-tu? Eh ben,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini ma tournée fin 2017 par de très jolies dates en Allemagne. Je suis rentré à la maison, j'ai écrit et enregistré mon nouvel album que je suis en passe de finir de mixer et qui va sortir en France début 2019.
Alors, question complètement idiote mais automatique chez les gens de médias, le nom de cet album à venir?
Alors, je ne parle pas encore du nom parce qu'on n'a pas encore annoncé. On voulait faire ça un petit peu, mettre tout ça un petit peu en scène.
Qu'on nous fait tout le temps. Donc, tu peux.
Non, mais par contre, au niveau de la tonalité de l'album, c'est vrai que le précédent, Pierrot Lunaire, c'était l'histoire de cet homme qui arrive à la conclusion qu'il a perdu son regard d'enfant. Et qu'au milieu de toute cette brutalité qui nous environne, qui il est, où il est. Et ce type part de chanson en chanson pour essayer de retrouver cette âme d'enfant. Et là, sur le nouvel album, j'avais envie de parler de quelque chose qui nous environne d'une manière différente. Je t'entendais parler en off tout à l'heure de fake news.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on est vraiment dans une ère de la vraisemblance. Une ère du faux, une ère des fake news, une ère de la vérité fabriquée. Et le faux nous environne. Et je trouve que c'est un sujet qui est fascinant parce que le faux, c'est d'abord une histoire. Et c'est un peu mon métier de auteur, d'essayer de, comme ça, de raconter des histoires, de répéter des histoires qu'on m'a racontées. Et je me disais, si t'écrivais un album qui aborderait ça, les différents aspects du faux.
Est-ce que justement le jeune papa que tu es a perdu son âme d'enfant? Je reviens un petit peu sur le précédent album, mais pour arriver sur l'album à venir, c'est-à-dire cet album où tu racontes aussi des histoires.
Le fait d'avoir des enfants, pardon, te fait être plus responsable, mais te reconnecte avec l'enfant que tu es, parce qu'en fait, quand tu vois ton fils à 1 an, 2 ans, ta fille à 1 an, 2 ans, enfin aux différents âges successifs réagir à telle et telle situation, tu dis, bah oui, c'est vrai qu'en fait, peut-être que j'en demande trop, peut-être qu'effectivement, oui, il faut arriver à revenir à cet état des choses, à prendre un peu du champ avec cette manière de poser des enjeux sur tout, d'aller vite, de se dire, bon, ok, là, dans un quart d'heure, il faut que je passe à autre chose, il faut que, bah, des fois, c'est bien de prendre son temps.
Bon, on va pas te prendre encore beaucoup de temps,
c'est pas
mais on profite, j'imagine, je sais bien, mais tu sais, pareil, c'est les petites manies des gens de ce métier, on se raccroche à une branche et on se dit qu'on a fait un bon mot. C'est ici à Montréal que tu as commencé à travailler à La Faveur.
Ouais.
C'est une bonne idée si tu pouvais nous l'interpréter.
Avec plaisir.
Guitare-voix.
Avec plaisir.
Allez, maintenant. Merci Tété d'avoir été avec nous.
Merci
pour ces couleurs tropicales, pour quitter Montréal avec une sublime chanson, l'une des plus belles mélodies qu'il m'ait été donné d'entendre, d'apprécier et d'écouter régulièrement avec mon téléphone.
Merci.
Devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne vient cette mélancolie. Un, deux, trois, qui est un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies un peu la mode de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, toi qui est un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. À la faveur de l'automne tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de super scoopy.
Casser le moteur, c'est fini.